Si tu as une Bible, je t'invite à aller avec moi dans le livre de Luc, au chapitre 5. Et ce message de ce matin, sachez que je le prêche pour moi en premier. Alors, si vous dites « c'était pour moi », non, c'était vraiment pas pour toi, c'était pour moi ce matin. Si tu dis « non, des fois, il y en a qui viennent me voir, c'était vraiment pour moi », ce matin, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Puis, prenez ce que vous pouvez prendre. Mais ce message-là est pour moi. Cette semaine, quand je le préparais, c'est un des messages qui m'a le plus parlé en le préparant. Depuis longtemps, dans Luc chapitre 5, il y a une histoire qui est vraiment particulière parce que c'est la première rencontre entre Jésus, on est au tout début du ministère de Jésus, et c'est la première rencontre de Jésus avec un homme qui dans le texte s'appelle Simon, mais que si tu vas à l'église depuis un certain temps, ce Simon-là, tu le connais plus sous le nom de Pierre, l'apôtre Pierre, celui qui a écrit deux livres de la Bible, celui qui est cité un peu partout dans le Nouveau Testament, celui qui a prêché le lancement de l'Église, tel qu'on la connaît encore aujourd'hui, c'est Pierre. Mais Jésus a changé le nom de Simon pour Pierre au fil du temps, puis on va le découvrir aujourd'hui pourquoi. Mais dans Luc chapitre 5, c'est la première rencontre des deux. C'est le moment où Jésus va rencontrer Simon, qui à l'époque, Simon, c'était un gars, je dirais, assez ordinaire. C'était un travailleur, il avait son emploi bien, bien normal. C'était pas un prédicateur, c'était pas un pasteur, c'était pas un leader religieux. Simon, c'était un gars qui avait une business de pêche. Il avait des bateaux, il pêchait des poissons et c'est ce qu'il faisait de son temps. Simon, c'était un homme qui avait son entreprise, gagnait sa vie à pêcher des poissons et c'est comme ça, chaque jour de sa vie, c'était sa vie. Gagner sa vie à pêcher des poissons, s'occuper de ses bateaux, s'occuper de ses filets. Et ce Simon-là, qui était un pêcheur de poissons, va finalement finir par être connu comme étant l'apôtre Pierre, le grand prédicateur, le grand leader, celui qui a même contribué à écrire la Bible qu'on tient encore dans nos mains 2000 ans plus tard. Mais dans Luc chapitre 5, c'est la première rencontre avec ce Simon-là et on va le découvrir ensemble du verset 1 à 11. La première rencontre et la première conversation entre Jésus et Simon, leur première rencontre, leur première conversation, ensemble. Alors, si tu es là avec moi, verset 1, si tu n'as pas de Bible, tout apparaît sur l'écran qui est derrière moi. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets, comme leur journée est finie. On lave nos filets, la journée est finie. Mais voici Jésus ce qu'il va faire. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Il y avait tellement de poissons dans les filets que les filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Faut juste comprendre qu'eux ont pêché toute la nuit en essayant d'attraper des poissons. Ce Jésus-là, qui lui cherche un moyen de prêcher à la foule qui était sur le bord du lac, dit « Je vais prendre ton bateau, ça ne te dérange pas, je prends ton bateau. » Puis alors que le bateau recule, Jésus se met à prêcher à la foule. Et quand il finit son message, il se retourne vers Simon et dit « Va jeter tes filets là-bas où l'eau est profonde. » Faut comprendre que Pierre, c'est ce qu'il fait dans la vie. Ce Simon-là qui est là, c'est sa job. Les gars savent où pêcher, savent comment faire, puis on n'a rien pris. On n'a pas été capable de rien prendre la journée, mais si tu le dis, on va le faire. Puis alors qu'ils le font, imaginez comment ils devaient être surpris. Ils commencent à sortir les filets, ils sont incapables de sortir les filets tellement qu'il y a des poissons. Alors, ces gars-là, ça, moi, j'imagine Simon doit se dire, qui est ce Jésus-là? Qui est ce Jésus qui nous dit, retourne pêcher, pendant que nous, on est en train de laver nos affaires pour s'en aller chez nous. Il dit ça, et nos filets sont tellement remplis que les bateaux sont en train de couler. Regardez verset 10. Il en allait de même pour Jacques et Jean, eux autres aussi avaient peur. Les fils de Zébédée, leurs associés, les associés de Simon et Jésus, dit à Simon, n'aie pas peur, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, dernier verset. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Le titre du message d'aujourd'hui est inspiré d'une conversation que j'ai eue cette semaine avec un jeune homme, puis un jeune homme de l'église qui me racontait son témoignage, on discutait ensemble, puis il a glissé dans notre conversation, il a accepté le Seigneur l'année dernière, vient d'être baptisé, puis il me racontait tout ce que Dieu fait dans sa vie, tout ce que Dieu est en train de changer en lui. Puis alors qu'il racontait ça, il lâche une phrase qui m'a inspiré le message de ce matin, puis je lui dédie le message, parce qu'il m'a dit quelque chose du genre, si j'avais su que la grâce de Dieu était aussi grande, j'aurais donné ma vie à Dieu bien avant. Puis le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Si j'avais su ». Si j'avais su. Dis à ton voisin, si j'avais su que tu chantais comme ça, je me serais assis ailleurs. Attendez, j'ai pas fini. Pas parce que tu chantes mal, c'est que tu chantes tellement bien que ça m'intimide. Là, j'ai dit ça. Si j'avais su. Chacun d'entre nous, on est capable de s'identifier avec cette phrase-là parce qu'à différents niveaux dans nos vies, vient un moment où on va se dire « si j'avais su ». On a pris des décisions, puis à ces décisions-là dans nos vies, alors qu'on était dans le feu de l'action, alors qu'on était dans le moment, la plupart d'entre nous, on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour nos vies avec les informations qu'on a à ce moment-là. On prend une décision, puis on pense que c'est la meilleure. Puis des fois, ça va arriver des deux côtés, les deux côtés de la balance. Des fois, je prends une décision que je banalise et je réalise des années plus tard les impacts positifs de ce plan. On se dit, si j'avais su que cette petite décision-là allait avoir autant d'impacts positifs, puis si c'est ça, ben tant mieux ce matin. Mais ça arrive aussi que c'est l'inverse. Ça arrive aussi que parfois, il vient un moment dans nos vies où on prend la meilleure décision qu'on pensait pouvoir prendre à ce moment-là, mais on réalise des années plus tard que c'était vraiment une mauvaise décision. Mais même si j'ai essayé toutes mes forces de prendre une bonne décision il y a 15 ans, ben cette petite décision-là a eu des répercussions que j'aurais jamais pensées. Puis on finit par se dire, si j'avais su que cette décision-là avoir autant d'impact peut-être négatif dans ma vie, j'aurais fait quelque chose, j'aurais pris une décision différente. Si j'avais su que les choix que j'ai faits il y a 5 ans, 10 ans, 25 ans en arrière allaient avoir autant d'impact sur ma vie aujourd'hui, j'aurais peut-être fait des choix différents. Vous savez, moi, j'étais avec les ados ce week-end, alors que je préparais le message pour ce dimanche, je me disais juste, hey, j'aurais aimé savoir certaines choses quand j'avais 15 ans. J'aurais aimé que quelqu'un me prêche le genre de message que je vais prêcher ce matin ici quand j'avais 15 ans. Pour pas qu'à 34 ans, je dise, si j'avais su que ces choix-là que je pensais banals, sans conséquence, allaient avoir des conséquences jusqu'à temps que j'aie 34 ans. J'aurais fait des choix différents. Très silencieux dans cette salle, mais très, très vrai. Si j'avais su que la paix de Dieu, la vraie paix à l'intérieur, ne se trouve pas dans une échelle de mesure du succès humain où je me dis, si je fais autant d'argent, si je peux avoir une belle carrière, si j'ai telle maison, si j'ai tel style de vie, si j'ai ça, là, je vais être heureux. Si on avait dit, si j'avais su que la vraie paix à l'intérieur ne se trouve pas dans ce que les gens cherchent, mais se trouve dans la présence de Dieu dans ma vie, j'aurais arrêté de chercher plus qu'à courir après plein de choses dans ma vie bien avant. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Si j'avais su que la vraie joie, là je m'adresse à la plus jeune génération, si j'avais su que la vraie joie, la vraie plénitude à l'intérieur ne se trouve pas dans le nombre de followers sur mes réseaux sociaux et que ça se trouve juste en Jésus, à chaque jour je marche avec Jésus, et juste le fait que je réalise la grâce de Dieu dans ma vie et que je marche avec Jésus, la joie qui vient de ça va être plus grande que n'importe quelle quantité de milliers de followers que je pourrais avoir. J'aurais juste cherché d'être en présence de Jésus à chaque jour. Quelqu'un devrait dire, ah, mais là, si j'avais su que les choix que j'ai faits allaient avoir autant d'impact, j'aurais fait des choix différents. Lorsque je parlais cette semaine avec le jeune homme, il me disait, si j'avais su que la grâce de Dieu était aussi incroyable, je l'aurais suivi bien avant. Si j'avais su, c'est ce qu'il me disait, si j'avais su que le pardon de Dieu était même pour moi, j'aurais arrêté de chercher le bonheur dans plein de choses bien avant. Eh bien, Dieu m'envoie ici ce matin pour que tu puisses arrêter de dire, si j'avais su. Ce matin, tu vas le savoir. Ce matin, tu vas le savoir. Et dans Luc chapitre 5, on a un portrait de comment Jésus voit les gens. Comment Jésus choisit les gens. Parce que la réalité, c'est que Jésus ne choisit pas les gens comme les gens choisissent les gens. On a un portrait dans Luc chapitre 5 de comment Jésus appelle des gens. Parce que voici, un petit avance sur le message. Les gens que tu penses qui sont appelés ne sont pas toujours appelés de Dieu. Mais les gens que tu sous-estimes, tu ne dis jamais Dieu pour appeler ce gars-là. C'est souvent ce que Dieu appelle. Et Simon est un bon exemple dans Luc chapitre 5. Une des choses que j'aurais voulu savoir plus tôt, si tu prends des notes, écris le mot « vision » en gras dans tes affaires. Et si tu ne prends pas de notes, prends des notes de ça ce matin. Entoure-le, souligne-le, surligne-le. Le mot « vision ». Une des choses que j'aurais voulu savoir si j'avais su que Jésus ne voit pas les gens comme moi je vois les gens. Pas juste ça. Si j'avais su que Jésus ne voit pas les gens seulement pour ce qu'ils sont maintenant, mais pour ce qu'ils peuvent devenir si ces gens-là marchent avec lui, je l'aurais suivi vraiment avant. Si j'avais su que Jésus ne me voit pas seulement pour qui je suis aujourd'hui, mais quand Jésus me regarde, il voit celui que je peux devenir si je marche avec lui, que je laisse son esprit me transformer. Et c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui, alors que Jésus retrouve Simon dans Luc chapitre 5, alors que tout le monde voit Simon comme étant un pêcheur de poissons, c'est un gars qui a son entreprise. Mais Jésus arrive dans la scène et lui, il ne voit pas juste un pêcheur de poissons, il va le déclarer au verset 10, il va lui dire « Maintenant, je te vois comme un pêcheur d'homme. Tu ne pêcheras pas juste des poissons, je vois quelque chose d'autre en toi que peut-être personne d'autre ne voit en ce moment. » Et c'est une des capacités que Jésus avait durant tout son ministère. C'est fascinant de voir à quel point Jésus était capable de voir les gens, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils peuvent devenir s'ils marchent avec lui. Et j'aimerais dire que partout dans le ministère de Jésus, c'était vrai. C'est aussi vrai en 2024, encore aujourd'hui. Que Jésus ne te voit pas seulement pour ce que tu es aujourd'hui, il voit ce que tu peux devenir si tu marches avec lui et que tu laisses son esprit, sa parole te transformer. Partout, dans tout le ministère de Jésus. Jésus, par exemple, on le voit avec Simon, que Simon passe de pêcher des poissons à être un leader dans le royaume. C'est la même chose avec un autre de ses disciples qui s'appelle Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts à l'époque. Les collecteurs d'impôts à l'époque étaient riches, mais pas très populaires. Vous direz qu'il y a des choses qui ne changent pas avec le temps, mais c'est ça comme ça. Les gars comme Matthieu, à l'époque dans la Bible, étaient vraiment pas aimés parce que de un, ils collectent les impôts. C'est rare que les gens étaient heureux d'aller vers eux pour donner leurs impôts. Mais en plus de ça, ils étaient très connus à l'époque pour être des fraudeurs. C'est-à-dire qu'ils prenaient l'impôt, mais en plus de ça, ils prenaient une cote supplémentaire qu'ils gardaient dans leur poche pour eux. Alors ces gens-là étaient riches, mais pas très aimés des gens. Et personne n'aurait dit, « Ah, Jésus, tu cherches des leaders dans ton royaume. Regarde, Matthieu qui est là-bas. » Voici un bon candidat pour toi et pour être un pilier pour ton royaume. Personne voyait ça, Matthieu, mais Jésus. Jésus s'approche de Matthieu. Vous lirez l'histoire, Matthieu chapitre 9, il arrive avec lui, il arrive proche de lui, il lui dit, « Maintenant, toi, tu vas te lever et tu vas me suivre, tu vas te rendre des disciples avec moi, tu vas devenir un leader. » Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Parce que Jésus ne voit pas seulement les gens pour ce qu'ils sont aujourd'hui. Il voit les gens pour ce qu'ils peuvent devenir s'ils marchent avec lui. Et il y en a ici ce matin, c'est la meilleure nouvelle de ta vie, au moins aujourd'hui. Que Jésus ne te voit pas seulement pour ce que tu es aujourd'hui, il te le voit pour ce que tu peux devenir si tu marches avec lui. C'est une capacité que Jésus avait et que Jésus a encore. Jésus nous apprend le principe que la vue nous permet de voir les gens pour ce qu'ils sont. Moi, ce matin, je vous vois pour ce que vous êtes. Il y en a si je vous connais, il y en a je les connais moins, mais je te vois pour ce que tu es. Jésus nous enseigne quelque chose. Il y a une vision spirituelle qui est différente. C'est pas juste mes yeux humains. Il y a des yeux spirituels où Jésus est capable de voir ce matin pas juste ce que tu es, pas juste tes mauvaises habitudes, pas juste tes erreurs, pas juste tes péchés. Jésus est capable de voir ce que tu peux devenir si tu marches avec lui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si j'avais su que Jésus me voit comme ça, j'aurais donné ma vie bien avant. Si j'avais su que Jésus ne me regarde pas et ne me fait pas juste la liste des choses qui ne marchent pas chez moi, Jésus est capable de regarder à ma vie et me dire « Voici ce que tu peux devenir si tu marches avec moi. » Et il y en a ce matin, c'est un message qui est pour toi. Parce que tu t'indignes, tu es là avec les regrets puis la honte peut-être des choses que tu as fait, que tu fais encore. Mais ce matin, Jésus dit « Oui, vois ça. » Oui, il le voit. Mais ce n'est pas tout ce qu'il voit. Il voit aussi ce que tu peux devenir si tu lui donnes ces choses-là, si tu marches dans la repentance, si tu marches dans sa parole, si tu marches par son esprit, ce que tu peux devenir. Je pourrais déjà inviter les musiciens à venir chanter, puis il y a déjà une prédication de fête là-dessus. Il y a déjà une prédication. C'est ce que Jésus voit en Simon. Tout le monde voit Simon, le pêcheur de poissons, le gars avec ses bateaux et ses filets. Mais Jésus va lui dire au verset 10, « N'aie pas peur, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Pêcheur d'homme. Imaginez Simon. Nous, on lit ça parce qu'on connaît le reste de l'histoire, mais Simon, C'est quoi Jésus? On va pêcher des humains dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe, pêcheur d'hommes? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous, on comprend aujourd'hui. On comprend que Jésus est en train de prophétiser sur sa vie. Il est en train de parler à Simon de choses que Simon ne pouvait même pas complètement comprendre ce qui est en train d'arriver. Mais Jésus est en train de prophétiser sur sa vie, en train de dire, là, tu pêches des poissons, mais un jour, tu vas pêcher des gens. Puis comment tu vas faire? Ce ne sera pas avec une ligne à pêche ou avec des filets dans un bateau physique. Tu vas être dans mon royaume à me servir, puis à prêcher, puis à parler de mon amour, puis à parler de qui je suis, puis à parler de moi. Puis alors que tu vas le faire, il y a des gens qui vont se tourner vers Jésus, qui vont découvrir qui est Jésus, qui vont découvrir la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas pêcher des gens. Parce que Jésus voyait déjà ce qu'il allait devenir. Et ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que Luc chapitre 5, on découvre Simon. Ce qu'on comprend dans le reste de tout l'évangile de Luc, des évangiles et dans les épîtres qui suivent, dans les années qui ont suivi, on découvre que Jésus va changer le nom de Simon pour le nom de Pierre. Et Jésus est en train de faire un jeu de mots avec le nom de Pierre. Parce qu'alors que Jésus lui voit quelque chose en Simon, que Simon ne voit même pas en lui-même, Jésus va dire, à partir de maintenant, ton nom va être Pierre. Parce que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et Jésus est en train de dire, c'est pas toi la pierre de la fondation, c'est pas toi Pierre, c'est pas toi, c'est moi, c'est Jésus ça. Jésus est en train de dire, moi je vais être la fondation de l'église que je bâtis. Moi je vais être la pierre sur laquelle tout le reste va reposer. Mais toi Simon, tu vas maintenant t'appeler Pierre parce que tu vas être une pierre sur laquelle tu vas venir sur la fondation qui est Jésus. Mais tu vas faire partie de ceux qui bâtissent mon œuvre. Alors tu vas t'appeler Pierre, tu n'es plus juste Simon qui pêche des poissons. Tu vas être Pierre parce que tu fais partie maintenant des pierres de mon édifice spirituel qui est ma maison. Il est en train de prophétiser. Il a changé le nom de Simon pour Pierre. Il change son identité où les gens te connaissent sous Simon, le pêcheur. Maintenant, tu vas devenir Pierre, le prédicateur. Tu vas devenir Pierre, le pasteur. Pierre, le leader. Pierre, celui qui parle de moi. Parce que Jésus voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Sais-tu ce qui m'a frappé le plus? Ça paraît super banal ce que je vais dire, mais ça m'a vraiment frappé cette semaine. Je lisais un commentaire là-dessus, puis un commentateur qui a dit, dans Luc chapitre 5, même si tout le monde voyait Simon, Jésus a vu le Pierre dans Simon. Simon, ce n'est pas une autre personne qui est arrivée plus tard. Pierre n'est pas arrivé plus tard. Pierre était déjà un Simon, mais personne ne le voyait. Dieu avait déjà créé Pierre. Il était connu sous le nom de Simon dans Luc chapitre 5. Mais Jésus voyait déjà le Pierre qui était en lui. Jésus voyait ce qu'il pouvait devenir. Puis j'aimerais te suggérer ce matin que c'est la même chose encore pour toi, c'est la même chose encore pour moi en 2024. Que Dieu voit des choses en toi que peut-être personne d'autre autour de toi ne voit en ce moment. Dieu voit des choses en toi que peut-être tes meilleurs amis ne voient pas. Peut-être que Dieu voit des choses en toi ce matin que ton mari ou ta femme ne voit pas. Peut-être que Dieu voit en toi ce matin, et je le crois, que même ton pasteur ne voit pas en ce moment. Mais Dieu le voit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu voit des choses en toi que peut-être toi-même tu ne vois pas, que personne d'autre ne voit, comme Simon ne voyait pas qu'il y avait un Pierre à l'intérieur de lui. Mais Jésus le savait parce que c'est lui qui l'avait créé. Et derrière la façade de nos vies, derrière le sourire dans le hall où tout est parfait, tout est beau, tout est cool, c'est beau, hein? Oui, bon dimanche, que Dieu te bénisse, moi et toi aussi, super, OK, parfait. Derrière ça, derrière la belle carrière, derrière la belle voiture qui est dans le stationnement, derrière tes beaux diplômes, derrière ton Instagram parfaitement aligné avec les filtres qui marchent puis les hashtags parfaits, derrière la façade de nos vies, Dieu voit ce qu'on peut devenir. Dieu voit pas juste l'image qu'on projette aux gens. Il voit qui tu es réellement et il voit ce que tu peux devenir si tu lui donnes ta vie réellement. Sous la surface de nos vies, en dessous de la façade de nos vies, sous la surface des insécurités qui peut-être m'ont amené à vivre ma vie d'une certaine manière parce que je me dis je suis insécure, que si je sors vraiment qui je suis vraiment, les gens ne m'accepteront pas. Alors je vais vivre une vie que je vais dire voici la façade que je vais projeter, voici les blessures que j'ai vécues, puis je veux tellement pas revivre ça, je veux tellement m'assurer de jamais revivre les blessures que j'ai vécues que je vais me bâtir une vie pour m'assurer de ne pas ressouffrir comme j'ai déjà souffert. Derrière tout ce qu'on projette, il y en a ici, il n'y a pas beaucoup d'amens, c'est tellement vrai ce que je prêche. Prêche par Star JP, c'est vraiment bon ce que tu es en train de dire. Derrière toutes les apparences, derrière les mensonges qui sont là, Jésus voit ce que tu peux devenir. Et ce matin, je veux te dire exactement où je m'en vais. C'est pas vrai que je m'en vais là dans 10 minutes, ça va être plus long que ça, mais je veux te dire exactement où je m'en vais. Ce matin, je veux tirer le Pierre dans Simon. Je veux que le toi que Dieu a créé, le toi que Dieu appelle, sorte ce matin. pour dire la façade, elle va tomber ce matin. Et Seigneur, je veux te suivre comme Simon. Ils laissèrent tout et le suivaient. Seigneur, je mets ma façade par terre, j'enlève les apparences, j'enlève le masque peut-être qui est là et je veux te suivre avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Laisse le Seigneur ce matin venir écrire comme une page blanche ce que ta vie peut être, parce que peut-être que tu es comme moi, mais ça m'est déjà arrivé, puis c'est un combat chaque jour où je mets ma vie dans une boîte en disant voici ce que je suis, voici ce que je suis pas, voici ce que j'ai vécu, alors je veux pas vivre ça, je peux pas être plus que ça, je peux pas être guéri de ça, je peux pas être restauré de ça, je suis pas appelé à ça. Laisse Dieu, comme une page blanche, venir écrire ce que tu peux devenir et ce que tu peux pas devenir. Laisse pas tes insécurités, tes blessures, laisse pas les autres, laisse pas ton passé, laisse pas tes erreurs, laisse pas toi-même venir définir ce que tu peux devenir. La seule personne qui peut définir ce que tu peux devenir, c'est celui qui t'a créé. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Ah, laisse ça descendre ce matin. Tes erreurs ne peuvent pas te définir si tu marches avec Jésus. Si tu marches avec Jésus, même tes pires erreurs ne vont jamais définir ta vie. Il y en a ici, tu as défini ta vie peut-être par les dépendances que tu as déjà eues. Peut-être qu'en ce moment, même ta vie est définie par les dépendances que tu as maintenant. Si tu marches avec Jésus, tes dépendances, je le déclare sur ta vie, ne seront pas ce qui va définir ta vie. C'est possible de vivre libre. Ne laisse pas même le péché de venir définir ta vie. Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, moi je suis comme ça, je suis juste condamné à être comme ça. Avec Jésus, on peut tracer une ligne et dire les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Laisse Dieu écrire comme sur une page blanche de ta vie ce que tu peux devenir. Il y a un Pierre à l'intérieur que si tu laisses Jésus le sortir, il va le sortir. Moi je vous dis, je vais réécouter le message en ligne, ça me bénit vraiment beaucoup. Wow, je vais écouter le podcast moi-même. Laisse pas les paroles qui ont été prononcées sur ta vie définir ce que tu peux devenir. Il y a des gens ici qui t'ont mis ta vie dans une boîte parce que des gens t'ont dit c'est ça que t'es toi ou c'est ça que t'es pas toi. T'es pas juste un Simon, il y a un Pierre à l'intérieur. Laisse Dieu définir ce que tu peux devenir. Pas les autres, pas les paroles, pas toi-même, lui. Laisse-le définir. J'aurais aimé ça le savoir avant. Mais si j'avais su que Dieu me voyait comme ça, je l'aurais suivi plus tôt. Et ce matin, peut-être que tu ne savais pas que Dieu te voyait comme ça, tu ne comprenais pas pleinement ce que Dieu peut-être voyait en toi. Ma prière, c'est que tu puisses t'arrêter de dire « si j'avais su ». Moi, je prie ce matin que tu puisses savoir ce que Dieu voit en toi, qu'il t'a choisi, que tu es pardonné, on l'a chanté ce matin, que tu es racheté, que tu es accepté, que sa grâce est là pour toi à chaque jour, que tu es approuvé par lui, que tu es appelé par lui. Quand on dit, non, lui, il y a un appel. Pasteur JP, il ne t'appelait pas moi. Non, toi, tu es autant appelé que moi dans le royaume de Dieu. C'est ça que Dieu dit de toi. J'aurais aimé ça. Si j'avais su, je l'aurais probablement suivi plus tôt. Dieu ne voit pas juste pour ce que tu es maintenant. Il te voit pour ce que tu peux devenir si tu marches avec lui. Si tu marches avec lui. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, manque pas ça ce matin, je crois que c'est vraiment pour plusieurs personnes. Si j'avais su que même mes plus grandes erreurs, même mes plus grands manquements envers Dieu, que même mes plus grands péchés envers Dieu ne seront jamais plus grands que la grâce de Dieu envers moi. Ah, je l'aurais suivi avant. Je l'aurais suivi avant. L'histoire de Simon et de Pierre est un témoignage pour nous que même mes plus grandes erreurs envers Dieu, même toutes les fois où j'ai été le plus infidèle envers Dieu, mes plus grands péchés envers lui ne pourront jamais être plus grands que la grâce, l'amour et le pardon de Dieu envers moi. C'est ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même si tu essaies de te sortir de l'amour de Dieu, tu peux même pas y arriver. Si tu essaies de toutes tes forces de ne pas mériter la grâce de Dieu, sais-tu quoi? Tu n'y arriveras pas parce que tu ne la mérites même pas en ce moment, mais il te la donne quand même. Et tu ne pourras jamais te disqualifier au point de ne pas la recevoir. Tes pires erreurs seront jamais plus grandes que sa grâce envers toi. Et si tu prends des notes, écris le mot « tension » en gras, encerclé, souligné, surligné. Le mot « tension ». Parce qu'à partir de Luc chapitre 5, lorsqu'on découvre la vie de ce personnage le biblique, Simon, qui est devenu Pierre, ce gars-là, il y a une tension qu'on découvre dans Luc chapitre 5. Parce que Jésus va l'appeler à plein d'endroits Simon, juste dans le chapitre 5 de Luc. Il va l'appeler Simon, verset 3, 4, 5, 10. Puis même au verset 8, il va l'appeler Simon-Pierre. Puis on le sait, parce qu'on a le reste des écrits par la suite, que Jésus va l'appeler plein d'endroits Pierre. Fait que moi, ma question, c'est comment faut l'appeler ce gars-là? Des fois, c'est Simon. Puis sachez que même une fois que Jésus l'a appelé Pierre, il l'a appelé Simon après encore. Des fois, c'est Simon. Des fois, c'est Simon-Pierre, quand on n'est pas trop sûr. Puis des fois, c'est Pierre. C'est quoi son nom à ce gars-là? C'est lequel des trois? C'est Simon? C'est Simon-Pierre ou c'est Pierre? Ma réponse? Ce gars-là a toujours été les trois. Ah, il a été Simon? Oui, clairement, il y a des moments que c'est Simon. Des fois, c'est Simon-Pierre. Mais des fois, c'est Pierre. Même si Jésus voyait le Pierre en Simon, Simon n'a jamais complètement disparu. Il y a une tension dans toute la Bible, dans toute la vie de ce gars-là. On découvre qu'il y a une tension entre le Simon et le Pierre. Et ce qui m'a renversé dans mon étude de ce texte-là, de la vie de Pierre, la vie de Simon, c'est que pratiquement à chaque endroit dans toute la Bible où tu vas lire le mot « Simon » pour faire référence à ce gars-là, c'est à chaque fois en référence à son humanité. C'est à chaque fois qu'il est dans... C'est pas nécessairement qu'il est dans le péché, c'est juste quand il est dans son humanité, parce que dans Luc chapitre 5, il fait rien de mal, il pêche des poissons. Mais Jésus va l'appeler Simon. Mais à tous les endroits plus tard où Jésus va l'appeler Simon, c'est soit des endroits où il est juste dans sa vie courante, et dans son humanité, ou dans ses erreurs ou ses péchés. Il l'appelle Simon. Mais tous les endroits où tu vas lire Pierre, ça fait référence à l'homme que Dieu l'appelait à devenir. Et c'est un portrait qu'on a dans la Bible entre la chair, c'est quand je marche selon la chair, et quand je marche selon l'esprit. Le Simon représentait la chair de ce gars-là, mais le Pierre représente quand il marche selon l'esprit. Et il y a une tension entre les deux pendant toute sa vie. Où parfois, le Simon prend le dessus, mais parfois, c'est Pierre qui prend le dessus. Et il y a une tension. Et si tu es assez honnête ce matin, tu comprends très bien ce que je veux dire par la tension entre le Simon et le Pierre. Parce qu'on a tous un Simon en nous et on a tous un Pierre en nous. Moi, j'ai un Simon à l'intérieur de moi qui tire d'un côté. Qui dit, JP, fais pas ça. Va pas dans le ministère. Prêchez trois fois. Es-tu fou? La ligne est mince entre la folie et la foi, des fois. Ça, c'est la ligne est très mince. Le gars qui t'a coupé sur la route, tu devrais aller le recouper puis breaker dans la face pour lui montrer qu'il conduit mal. Tu vas faire ça. Hey, jugez-moi pas. C'est sûr qu'il y en a que vous pensez ça aussi. J'ai pas dit que je le faisais. J'ai juste dit que je l'ai pensé. Il y a un Simon qui est là, qui tire d'un bord. Mais lorsque je marche avec Jésus, j'ai aussi un Pierre qui est là. Ça, c'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui me change en moi. Je dis non, moi, je vais à l'église, j'aurais voulu dormir. Non, c'est pas grave, tu t'écouteras en ligne. Ah non, je veux être à l'église parce que l'église, c'est pas juste entendre un message. C'est d'être en communauté ensemble, de louer ensemble. Il y a quelque chose de spécial qu'on est ensemble. Alors vas-y, quelqu'un te dire amen à ça. Le Pierre qui dit non, va à l'église. Va à l'église. C'est moi qui prie, c'est moi qui dis oui à Jésus, c'est moi qui essaie de donner généreusement. C'est moi qui essaie d'aimer ceux qui ne sont pas facilement aimables. Quelqu'un nous emmène à ça. Il y a le Pierre qui est là. Puis il y a le Simon qui dit, non, aime-le pas, lui. Lui, on a essayé de l'aimer, ça ne marche pas. Là, c'est là, ouais. Puis tu as le Pierre qui dit, aime-le encore. Il y a une tension entre Simon et Pierre. Ce personnage-là, Simon, là, c'était pas toujours drôle. Simon, l'apôtre Pierre dans la Bible, c'est souvent le gars qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Quand c'est le temps de se taire, c'est souvent la personne qui dit tout haut ce qu'il n'aurait vraiment pas dû dire. Là. C'est le temps de se taire, Pierre. Là, t'as vraiment trop parlé. Pas de coup de coude à personne. Ça arrive encore, ça, aujourd'hui. Ça, c'est Simon. Le Simon qui est très peu engagé envers sa parole. Lorsque, par exemple, il va dire à Jésus, « Ah, Seigneur, quand tous les autres vont t'abandonner, quand les gens vont te renier, quand les gens vont t'abandonner, Seigneur, moi, je t'abandonnerai jamais. » Première chose qu'on découvre, lorsque Jésus s'en va vers la croix, on demande à Pierre, « C'est pas toi qui suivais Jésus? » Je connais même pas ce gars-là. Je sais même pas c'est qui. Ça, c'est le Simon. C'est le gars qui est pas fiable, respecte pas sa parole, le gars qui est impulsif, le gars qui dit tout haut ce qu'il devrait pas parler, il devrait jamais dire tout haut. Puis t'as le Pierre de l'autre côté. T'as le Pierre qui est là, qui suit Jésus dans Luc chapitre 5, il laisse tout derrière, puis il suit. Puis t'as le Pierre qui est là, qui prêche, qui aime les gens, qui avec toute la foi qu'il peut avoir, prie pour que les gens soient guéris. Il y a une tension entre les deux. Puis si on est honnête, encore aujourd'hui, il y a une tension entre Simon et Pierre. Ou parfois, j'ai, si on est honnête, là, marché avec Jésus. Je veux suivre Jésus, puis je fais le pas de le suivre, puis je vais à l'église, puis je prie, puis j'ai l'impression que je fais des pas dans la bonne direction. Mais j'ai aussi Simon qui me tire de l'autre bord parfois. Ou des fois, je tombe encore dans des choses que je devrais pas, puis j'avais fait deux pas en avant. Puis là, je tombe dans quelque chose que je pensais jamais retomber, je fais trois pas en arrière. Puis là, j'ai sauté deux dimanches parce que j'avais trop honte de venir à l'église parce que j'étais dans mon péché, puis l'ennemi a réussi à me convaincre de pas aller à l'église. Quand c'était la meilleure chose à faire, c'était de revenir à l'église. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Et là, je reviens à l'église, je fais un pas en avant. Mais là, dans le stationnement de l'église, je perds patience avec quelqu'un de l'église. Là, j'ai fait quatre pas en arrière. Je sais que ça arrive jamais à Nouvelle-Vie Québec, mais dans d'autres églises, c'est déjà arrivé. Faites vraiment attention aujourd'hui de la manière que vous allez vous comporter en sortant d'ici. Mais c'est l'attention qu'il y a quand je veux suivre Jésus. Ou le Pierre en moi, je veux être généreux, je veux donner, je veux prier, je veux lire ma Bible. Mais des fois, je tombe encore dans des choses que je ne devrais pas. Des fois, je ne suis pas fidèle. Je me dis, je vais prier, puis je ne prie pas. Puis là, je voulais prier, mais on dirait que toutes les choses qui n'étaient pas importantes dans ma vie sont devenues importantes au moment où je voulais prier. Puis finalement, je n'ai pas prié. Est-ce que ça vous arrive, ça? Là, je fais un pas en arrière. Il y a une tension. D'un côté, j'ai comme le Pierre que Jésus essaie de sortir en moi. Puis de l'autre côté, j'ai le vieux Simon qui est là, qui me tire encore. Il y a une tension entre les deux. Puis j'ai pas de misère à croire parfois que je lis la Bible, je me dis, je vois tout ce que Pierre fait. Je me dis, c'est sûr, le prédicateur, le leader, le pasteur. Je me dis, clairement, ce gars-là était appelé. Mais quand je regarde ses côtés Simon, je me dis, comment Jésus a pu choisir ce gars-là? Comment Jésus a pu choisir ce gars-là? Je veux rappeler à quelqu'un ce matin qui a besoin de l'entendre, d'autres que moi, que même mes plus grandes erreurs envers Dieu ne seront jamais plus grandes que la grâce de Dieu envers moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même mes pires moments, Simon, n'empêcheront jamais Jésus de dire « il y a un Pierre à l'intérieur. » Il y a un Pierre à l'intérieur. Est-ce que ça t'arrive de perdre patience des fois? Les parents? Non? Parfait. Je vais prier. J'entends votre livre sur la parentalité, signé, autographié. Amenez-moi là, s'il vous plaît. Je vais vous le payer. Il faut que je le lise. Ça vous arrive de manquer de patience? Moi aussi, ça m'arrive. Des fois, Simon veut sortir. Est-ce que ça vous arrive de vouloir lire votre Bible? Vous partez le dimanche, vous dites, cette semaine, je lis ma Bible à chaque jour. Puis vous ne vous rendez même pas mardi. Est-ce que ça vous arrive? Ah, ça m'arrive des fois. Est-ce que ça vous arrive de lire votre Bible puis de ne pas comprendre ce que vous venez de lire? Savez-vous quoi? Moi aussi. Mais non, t'es pasteur. Exactement. Priez pour moi. C'est quelqu'un qui devrait comprendre, c'est moi, puis je ne comprends pas. Je ne comprends pas toujours. Il y a une tension entre Simon et Pierre. Mais la parole que j'ai pour toi aujourd'hui, puisque Dieu m'a montré, manque pas ça. C'est qu'il va y avoir des moments où je veux tellement être Pierre, mais Simon me tire. Ce matin, Dieu m'envoie jusqu'à toi pour te dire une chose. Tes pires péchés envers Dieu seront jamais plus grands que la grâce de Dieu envers toi. Sais-tu pourquoi? La seule raison, c'est parce que Jésus a fait pour toi à la croix il y a 2000 ans. Parce que quand Jésus a pris ta place sur la croix pour payer pour toutes tes fautes et tes péchés, tes erreurs, tes manquements, non seulement passés, mais présent et futur. Ça veut dire que Dieu sait que même s'il m'appelle à être Pierre, il sait que je vais être encore Simon des fois. Mais Jésus a payé sur la croix pour ça aussi. Il savait tous les moments que tu allais être Simon. Puis pas juste le moment où tu as donné ta vie à Dieu puis ça mettait une page blanche sur ta vie. La même grâce qui m'a sauvé m'accompagne chaque jour. Alors ça veut dire que lorsque Jésus a payé pour mes fautes sur la croix, a payé pour mes péchés sur la croix, une fois pour toutes, sais-tu qu'est-ce qui arrive théologiquement? Ça veut dire que lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque je reconnais que j'ai besoin de Jésus parce que je ne peux pas avoir accès à Dieu par moi-même, je ne peux pas être réconcilié avec Dieu par moi-même, je ne serai jamais parfait, jamais assez digne d'être en présence de Dieu. Alors lorsque je réalise que j'ai vraiment besoin de Jésus pour être réconcilié avec Dieu, que lorsque c'est sa grâce, c'est son pardon qui me rend digne, c'est son amour qui me rend digne d'être réconcilié avec Dieu, lorsque je réalise ça et que je lui dis, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un Seigneur, je te donne ma vie, sais-tu qu'est-ce qui arrive théologiquement? C'est que je deviens comme caché derrière l'œuvre de Jésus. Ça veut dire que lorsque Dieu me regarde, il ne me voit pas moi, il me voit à travers Jésus. Ça veut dire que même si... Non, pas ça, attends ça. Même si des fois je suis Pierre, puis que ça glorifie Dieu, même les fois où je suis Simon, puis que ça glorifie pas Dieu, je suis toujours caché derrière l'œuvre de Jésus. Ça veut dire que Dieu voit pas juste mon état de pécheur, il voit pas juste toutes mes erreurs, tous mes péchés. Dieu me voit à travers l'œuvre de Jésus, l'amour de Jésus, la grâce de Jésus envers moi, le pardon de Jésus avec moi. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui me rend digne. Parce que moi, je peux pas être digne par moi-même, parce que je fais encore des erreurs, je pêche encore. Mais quand je suis caché derrière Jésus, lui me rend digne. Ça veut dire que Dieu, c'est Jésus qui voit, pas moi. C'est lui qui me justifie. C'est pas moi qui peux me justifier, c'est lui qui me justifie. Alors quand je marche avec lui, je suis caché derrière l'œuvre de Jésus. Regarde comment Colossiens va le dire. Colossiens va dire ceci, il va dire « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses anciennes sont passées, maintenant toute chose est devenue nouvelle. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Mais regardez ça. En effet, vous avez connu la mort, qui est spirituellement, ma chair est morte, maintenant je suis vivant en Jésus, mais regardez ça. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, je suis Pierre. Merci Seigneur, ça glorifie. Mais des fois, je suis Simon. Mais dans les deux cas, je suis toujours caché derrière la croix de Jésus. Alors, j'ai pas à me demander, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu m'accepte encore? Est-ce que je suis encore assez digne? Est-ce que Dieu me justifie encore? La réponse, c'est oui, parce que je suis caché derrière l'œuvre de Jésus. Et si j'avais su ça, j'aurais donné ma vie bien avant. Si j'avais su ça, j'aurais pas vécu dans l'insécurité tout le temps de dire est-ce que Dieu m'accepte aujourd'hui ou pas, ou si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'il va m'accepter ou pas? Je sais vous poser cette question-là, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je suis sauvé encore? La réponse, c'est que si j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie est cachée en lui. Si j'avais su ça, ça aurait changé ma vie. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses arrêter de te le demander parce que maintenant, tu le sais. Dernière chose. Parce que ça, là, ça va t'amener à prendre une décision. Puis c'est ma dernière pensée. Si tu prends des notes, écris le mot « décision », encercler, souligner, surligner. La troisième chose que j'aurais voulu savoir plus tôt, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, comme l'ami avec lequel, le jeune homme avec qui je prenais un café cette semaine. J'aurais vraiment voulu savoir qu'une décision, comme ce matin, peut réellement changer la trajectoire de ma vie. Que le moment où je décide de suivre Jésus comme Simon l'a décidé dans Luc chapitre 5, qu'il laissa tout et le suivit. Toute sa gang laissèrent tout derrière et le suivirent. Ces gars-là n'avaient aucune idée ce que cette décision-là allait impliquer. Mais si j'avais su que la seule décision de dire « je veux suivre Jésus », pas partiellement, mais pleinement, peut complètement changer ma vie. Et ce n'est pas pour exagérer le propos, c'est réel. Ça peut complètement changer ma vie. Ben, je l'aurais suivi vraiment avant. Si j'avais su ça. Parce que dans Luc chapitre 5, Simon est vraiment face à une décision à prendre. Ce Jésus-là qui embarque dans son bateau, qui lui dit « va pêcher », il y a un miracle qui prend place. Ce même Jésus qui se retourne vers lui, il voit quelque chose en lui que lui-même ne voyait pas en lui. Il dit « tu ne vas pas être juste un pêcheur de poissons, Simon, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. » Mais ça impliquait que Simon, alors qu'il revienne au rivage, Simon a une décision à prendre à ce moment-là. Est-ce que je continue avec mes plans à moi? Mes projets à moi, mes affaires à moi, ma business à moi, mes filets, mes bateaux, mes poissons, ou est-ce que je décide de suivre ce Jésus-là qui dit qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu? Je ne comprends pas tout, puis j'ai encore des questions. J'aimerais dire bienvenue dans le club encore aujourd'hui. Mais j'ai une décision à prendre. Est-ce que je continue avec mes projets, mes affaires, ma business, mes diplômes, ma carrière, mes biens, mes affaires? Ou est-ce que je dis, Seigneur, je suis prêt à tout laisser derrière et te suivre. C'est la même question que je te pose aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Luc chapitre 5 nous montre le potentiel d'un moment, là, la puissance d'une décision que tu peux prendre, de suivre Jésus. Moi, lorsque je recule le plus loin que je peux me rappeler, la première décision que j'ai prise pour revenir à Dieu à 20 ans, je n'avais aucune idée, ce vendredi soir-là qui était banal, je ne connaissais personne dans la salle, puis je me suis avancé. parce que je voulais donner ma vie pleinement à Jésus. Je n'avais aucune idée que je ferais ce que je ferais aujourd'hui. J'ai aucune idée ce que Dieu guérirait en moi. Les blessures, la colère qu'il y avait en dedans de moi, que Jésus allait guérir, qu'il allait enlever, qu'il allait remplacer par sa paix, qu'il allait remplacer par sa joie, qu'il allait mettre en moi des rêves nouveaux, des aspirations nouvelles. J'avais aucune idée. C'est parti d'une décision banale. Comme ça pouvait paraître banal pour Simon. Est-ce qu'on suit Jésus ou on continue dans notre business de bateau? Puis ce matin, je ne sais pas comment tu es rentré ici. Peut-être qu'il était rentré ici avec aucune attente. Tu es peut-être ici juste par routine. Tu es ici par rituel religieux, tu disais, il faut que j'aille à l'église parce qu'on est dimanche. Tu es peut-être ici parce qu'on t'a invité. Tu es peut-être ici juste parce que tu étais curieux puis tu nous as trouvé en ligne, comme il y en a plein à chaque mois qui nous disent. Je vous ai vu sur Instagram, je vous ai vu en ligne, puis là, je suis là ce matin. Mais ce matin, tu ne le savais pas, mais tu es face à une décision. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus pleinement ce matin? Parce qu'il y en a, tu es ici, tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Tu as dit, Seigneur, je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même, mais tu ne le suis pas pleinement aujourd'hui. Il y a des sphères de ta vie que Jésus, peut-être le sauveur de ta vie, mais il n'est pas le Seigneur de toutes les sphères de ta vie. Il y a peut-être des sphères de ta vie que tu n'as pas vraiment donné encore. Tu ne peux pas dire comme Simon, je suis prêt à tout laisser te suivre. Seigneur, je suis prêt à te suivre, mais je ne t'ai pas encore tout laissé. Mais peut-être que ce matin, c'est ton matin pour prendre une décision de dire, Seigneur, je te laisse tout. Je suis prêt à te laisser la sécurité derrière. Je suis prêt à laisser même... En ce moment, Seigneur, je ne te donne pas accès aux relations dans ma vie, mais viens régner sur mes relations. Je te donne tout. Je te donne ma carrière. Je te donne mes études. Je te donne ma famille. Viens faire ce que tu veux. Seigneur, je te donne mon futur. Viens faire ce que tu veux. Je te mets mes projets devant toi. Viens faire ce que tu veux. Je te donne mes rêves, Seigneur. Viens faire ce que tu veux. Je te donne les plans de ma vie. Viens faire ce que tu veux. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus comme ça? J'aimerais juste te dire que la seule façon de pleinement découvrir le Pierre qui est à l'intérieur, c'est de faire comme Simon a fait, de tout laisser et de le suivre. Et si tu fais ça, je crois que Jésus va passer le reste de ta vie à sortir le Pierre du Simon. Et tu pourrais te retourner dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 25 ans, 40 ans et dire, quelle vie extraordinaire. Moi, j'ai pas envie sur ma tombe, j'ai pas envie que ce soit écrit que j'étais Simon. Je veux le plus possible devenir Pierre. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et me dire, j'aurais donc dû suivre Jésus pleinement. Je veux le suivre pleinement maintenant. Alors, je t'invite à te lever à ta place. Quelques secondes ensemble, on va terminer. Ça va être un moment de décision parce qu'aujourd'hui, ça peut être le moment que tu ouvres ton cœur à Dieu peut-être pour la première fois. Aujourd'hui, ça peut être le moment où tu réponds à l'appel de Dieu peut-être pour la première fois parce que tu suis Jésus, tu l'aimes, tu lui as donné ta vie. Mais il y a un appel qui est peut-être là sur ta vie que tu n'as jamais pleinement dit oui encore. Et il y a peut-être un appel, c'est peut-être un appel au ministère, c'est peut-être un appel à aller comme missionnaire, c'est peut-être un appel à juste consacrer ta vie, à le servir d'une façon nouvelle, d'une façon davantage qu'en ce moment. Je ne sais pas exactement tout ce que Dieu peut t'appeler à faire. Te rappeler, ce n'est pas juste ce que je fais. S'il y a mille et une choses que Jésus peut t'appeler à être et à devenir. Mais ce matin, ça peut être le matin où tu dis, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur depuis longtemps aujourd'hui, je vais céder. Je vais dire, viens le faire, Seigneur. Je te donne ma vie. J'enlève les barrières qui m'empêchent de te suivre, puis je vais le faire. Puis il y en a ce matin, peut-être pour toi, c'est la première fois de ta vie que tu vas ouvrir ton cœur à Jésus. Il y a plein de gens qui l'ont fait à la première réunion. Peut-être que tu es là, mais c'est le matin que tu vas décider pour la première fois de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Jésus, ce que tu as fait pour moi à la croix, te payer pour mes fautes, passé, présent et futur, pour mes péchés, passé, présent et futur. Et je réalise que je ne pourrai jamais me sauver moi-même. J'ai besoin de juste donner ma vie à Jésus et que c'est lui qui me rend digne. J'ai besoin ce matin d'être caché derrière, pas mes actions, pas ma performance, d'être caché derrière la performance de Jésus à la croix pour moi. Et ce matin, c'est peut-être ton matin pour dire, je vais ouvrir mon cœur à ce Jésus-là. Tu as peut-être des questions encore, je vais te dire, bienvenue dans le club. Tu as des doutes encore, bienvenue dans le club. Mais ça, que ça ne t'empêche pas ce matin de prendre la décision de dire, je veux suivre Jésus quand même. Alors pendant que toutes les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, juste avant qu'on aille dans un champ, je veux donner l'opportunité au moins à une personne ce matin de dire, JP, j'aimerais ça que tu pries pour moi ce matin. J'aimerais ça, je veux accepter le Seigneur, je veux suivre Jésus pleinement, je veux ouvrir mon cœur à ce Jésus-là. Je veux croire que Jésus ne me voit pas juste pour ce que je suis, mais ce que je peux devenir si je marche avec lui. Mais ce matin, ça peut être le premier pas que tu vas faire avec lui. Alors si tu es ici ce matin et tu veux ouvrir ton cœur à Jésus peut-être pour la première fois, je vais compter jusqu'à 3. Toutes les têtes sont penchées, les yeux fermés, c'est entre toi et Dieu. Mais juste pour dire, JP, prie pour moi ce matin. Lorsque je vais te dire 3, je vais t'inviter à lever ta main à ta place. Dire, JP, prie pour moi. 1, 2, 3, lève ta main à ta place. Lève ta main à ta place. Oh Seigneur, je te prie pour chaque personne qui lève la main ce matin. Oh Seigneur, tu vois chaque cœur, tu vois chaque personne. Seigneur, on veut se cacher derrière l'œuvre de Jésus ce matin. Seigneur, on s'attache aux promesses de ta parole. Comme avec Simon, tu ne nous vois pas seulement pour ce qu'on est aujourd'hui, mais tu nous regardes pour ce qu'on peut devenir si on marche avec toi. Et je veux te prier pour chaque personne ce matin qui prend la décision, peut-être pour la première fois, de dire « Je veux marcher avec ce Jésus-là. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis indigne. Je reconnais que je ne peux pas être parfait. Je ne peux pas être digne d'être réconcilié avec Dieu. J'ai besoin de l'œuvre de Jésus, de la croix de Jésus qui a payé pour moi. » Je te prie pour chaque personne qui prenne cette décision ce matin, que ton esprit, Seigneur, témoigne à leur esprit qu'ils sont maintenant tes enfants, Seigneur. Je te prie que ton esprit vienne remplacer le regret, la honte, le fardeau qui est lourd par ta paix, par ta joie. Seigneur, il y a une joie qui vient où, Seigneur, les péchés sont effacés, les erreurs sont enlevées. Et Seigneur, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Seigneur, il y a une joie qui vient dans ce moment-là, il y a une légèreté qui vient dans ce moment-là. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu nous appelles et que tu nous guides, Seigneur, à chaque pas, alors qu'on marche avec toi. Viens sortir le Pierre dans nous, Seigneur. Viens sortir celui ou celle que tu nous appelles à devenir parce qu'on va marcher avec toi. Tu vas nous transformer un pas à la fois. Et Seigneur, viens faire ce que juste toi peux faire dans nos vies. Moi, je fais appel par la foi à tous les pierres dans ce lieu. Ils vont sortir, Seigneur. Je te prie pour des appels qui vont être suscités ce matin. Je te prie pour des destinées qui vont changer, des trajectoires qui vont être modifiées ce matin parce qu'on va maintenant décider, comme Simon, de tout laisser derrière et de te suivre, Seigneur. Viens faire ce que juste toi peux faire en nous. Dans le nom de Jésus et Nouvelle Vie, est-ce qu'on peut célébrer tous ceux qui ont pris cette décision ce matin? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? C'est la plus belle chose. Hey, ce matin, on va chanter ce chant-là comme une prière. Alors que Simon a suivi Jésus, ce matin, nous aussi, on va courir vers lui. On va s'abandonner à lui. Seigneur, on veut marcher avec toi. Je veux pas marcher sur la route de mes projets, de mes plans. Je veux marcher avec toi. On va le chanter ensemble. Chante-le comme une prière ce matin. J'ai trop longtemps.